Bonjour, vous êtes en direct sur Radio Calimera, soit bonjour en grec. Nous sommes des élèves du lycée franco-hellénique Eugène de la Croix d'Athènes et on se trouve au salon de l'éducation sur le stand de l'AEFE. Nous serons avec vous cette demi-heure pour vous présenter le salon. Qu'est-ce que donc le salon de l'éducation? Le salon de l'éducation, c'est le plus grand salon d'orientation au monde. Professionnels de divers métiers, conseillers d'orientation et représentants d'universités et de grandes écoles, tout ça en 20 000 mètres carrés. L'entrée est gratuite, catalogue gratuit aussi, en bref, tout pour vous orienter. Notre formateur web radio, Gérard Colavecchio, est avec nous et travaille pour le CLEMI. Gérard, qu'est-ce que donc le CLEMI?
Bonjour, merci d'avoir invité. Le CLEMI, c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. En fait, c'est un service du ministère de l'Éducation nationale, sous couvert du réseau Calopé, qui est là pour faire un peu ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire former les élèves à produire des médias et puis à comprendre l'information qui les entoure. Et là, aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez souligné, on est en partenariat avec l'Agence de l'enseignement français à l'étranger.
Merci beaucoup et bonne continuation. Nous sommes toujours en direct sur le salon de l'éducation. Théo et Eve se sont promenés dans les stands et se sont informés sur les filières littéraires et les TIS. Alors Eve, les TIS, qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle barbare?
Les NTIC regroupent en fait les technologies numériques qui permettent d'améliorer l'information ou bien la communication. On peut penser trop souvent que littérature ou technologie n'ont rien en commun. Pourtant, c'est quand même deux domaines qui se complètent, qui progressent ensemble depuis déjà très longtemps. Quand Gutenberg crée en 1454 l'imprimerie, il a entièrement révolutionné la diffusion et la vulgarisation du livre. Et l'e-book, surtout aujourd'hui, qui permet un accès extraordinaire à une bibliothèque virtuelle, mais aussi universelle. Mais quand même, on peut se demander si ce nouvel outil aura le même succès que les smartphones et les tablettes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, c'est désormais indispensable dans l'enseignement des langues et de la littérature. C'est une évolution qui est symptomatique. Les ordinateurs, les tablettes, les tableaux numériques, tout ça, ça permet un enseignement beaucoup plus interactif et attractif pour les professeurs et les élèves. Pour nous en dire un peu plus sur ce sujet, nous recevons notre premier invité, Shannon Picardo. Il a créé un site internet qui permet aux élèves de reprendre leurs cours à l'aide de vidéos, de fiches de cours ou de quiz. Donc si vous passez le bac ou le brevet, je vous incite vivement à y jeter un coup d'œil. Ce site s'appelle scoumo.fr.
Nous sommes maintenant avec Shannon Picardo, créateur du site de soutien scolaire en ligne SchoolMove. Bonjour Shannon.
Bonjour.
Comment vous est venu à l'esprit le projet SchoolMove?
Tout simplement, comme moi aussi je passais le bac, je voulais avoir accès à des cours particuliers, je n'avais pas accès parce que c'était beaucoup trop cher. Donc tout simplement, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé aucun site de soutien scolaire qui me permettait de réviser efficacement. Et quand je suis rentré en école de commerce, j'ai décidé justement de créer mon propre site Internet qui reprendrait tout le programme de l'éducation nationale en vidéo. Donc ce sont des vidéos qui reprennent tous les programmes, histoire, géographie, français, mathématiques, avec des vidéos de cours, des professeurs, il y a des animations, des schémas, les vidéos sont très ludiques. Et le site permet également de réviser avec des fiches de cours, des QCM et des exercices.
Est-ce que vous pensez que ce projet, donc SchoolMove, c'est une sorte de révolution des cours en ligne?
Alors c'est une révolution surtout du soutien scolaire. Donc, le soutien scolaire est accessible à très peu de foyers. Donc c'est surtout une révolution de l'éducation et du soutien scolaire, et aussi on va dire des cours en ligne, étant donné qu'aujourd'hui on n'a pas de site aussi complet.
Est-ce que vous pensez que le numérique puisse révolutionner d'une certaine manière l'éducation de façon plus large?
Oui, je pense que le numérique permet de diffuser justement de manière plus large l'éducation à un plus grand nombre de personnes, et permet avec des outils et des supports adaptés aux élèves et à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire le portable, les tablettes, de trouver une manière adaptée de leur fournir cette éducation justement.
Et vous avez des projets futurs dans le domaine des nouvelles technologies?
Mais pour le moment, on se concentre sur SchoolMove, c'est un énorme projet. On a sorti les premières classes de 3e, 1ère et terminale pour le bac et le brevet. D'ici un an, normalement, on devrait recouvrir tout le collège et le lycée. C'est déjà un projet qui prend énormément de temps.
Je voulais vous féliciter parce que pour SchoolMove, vous avez reçu le prix économie numérique du Salon Créative à Toulouse. Bon, bravo. Ça vous fait quel effet ça vous aide pour continuer? Ça vous motive?
Ça permet de valider le projet, de se dire que finalement l'idée n'est pas si bête. Donc à ce stade-là, on a énormément besoin de motivation parce que c'est énormément de travail aussi. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de gagner des concours, ça valide le projet.
D'accord, je vous félicite une dernière fois et je vous dis merci beaucoup et bonne continuation.
Merci.
Le salon de l'éducation, c'est aussi la découverte des métiers de l'art. Nicolas a enquêté pour nous.
Merci Orion. L'art existe depuis la nuit des temps. Des peintures murales de Lascaux aux anges de Caiffrarin, en passant par la Mona Lisa de Da Vinci, des millénaires se sont écoulés. Mais l'art n'a finalement que peu changé. Au XXIe siècle, la révolution technologique a fait basculer l'art dans une nouvelle dimension. Du papier à l'écran, quel vrai changement apporte la technologie ? Dans le domaine de la peinture, l'ordinateur offre à l'artiste une palette de couleurs infinies et une grande diversité de textures. Un élément prélevé pourra être multiplié, inversé, recolorisé, réduit, agrandi, déformé à volonté. Le collage ou le photomontage prenant un tout autre sens avec l'ordinateur. Des universités d'art ont adapté leur formation à ces nouvelles technologies. L'université de Tokyo, par exemple, a mis en place des écrans numériques à la place des tableaux noirs, des tablettes à la place des cahiers, et à la fin des cours, chaque élève envoie le travail qu'il a fait sur sa tablette à son professeur. Ils apprennent donc aussi à dessiner directement sur les tablettes. Mais qu'en est-il en France ? Nous allons tout de suite entendre ce que les universités de EAP et Comart ont à dire.
En fait, on a plusieurs cursus. Un cursus axé dessin, peinture, etc. Et un cursus d'infographie, un cursus d'infographie 3D. Donc, forcément, en infographie, on a besoin de la technologie pour évoluer, travailler, pour développer nos connaissances, on va dire.
Est-ce que la technologie apporte plus en art que les techniques traditionnelles ?
Alors, non. C'est un gain de temps, c'est une autre façon de travailler. Mais on fait toujours les deux, en fait. On continue à faire pour les projets, on continue à faire et du dessin à la main et des choses à la main, c'est vraiment de la technologie pour finaliser les choses.
Art et technologie peuvent
se cohabiter. Bien sûr, c'est l'avenir, je pense.
Alors, faut-il imprimer une œuvre réalisée sur l'ordinateur ?
Parce que ça change. Alors en fait, oui, on peut avoir des surprises au niveau des couleurs. Quand on crée un document en couleur sur le numérique, il y a un ordre d'enregistrement. On appelle ça RVB ou CMJN, les couleurs primaires ou les couleurs périphériques. Et si on veut commencer en RVB et qu'on imprime, on risque de perdre la qualité des couleurs. Ça va désaturer, ce ne sera pas les mêmes couleurs. Donc ça peut avoir un impact. Il faut faire les bons réglages des débits.
Mais dans ce cas, il faudrait renouveler tous les musées d'art et introduire un système plus avancé qui permettrait aux visiteurs d'avoir accès à ces œuvres numériques. Un coût énorme à l'heure où le gouvernement veut faire des économies. On considère qu'une œuvre est mieux perçue quand elle est vivante, matérialisée, qu'elle a pris cher. L'informatique fait perdre à l'œuvre une part de sa magie. Van Gogh a mis son cœur, ses tripes dans ses toiles, en jouant avec les couleurs, mais aussi par les aplats de peinture. En admirant ses œuvres, on partage les sentiments de l'artiste. Mais sur un ordinateur, il me semble impossible d'exprimer vraiment ses sentiments, de donner vie à l'œuvre. Rappelons qu'Internet donne accès à des plagiats de quelques œuvres d'art. Pour l'artiste, cela représente un coup fatal dans sa carrière, car il risque de perdre une bonne partie de ses droits d'auteur. En fin de compte, art et technologie peuvent cohabiter, mais ne doivent pas fusionner totalement. N'importe les moyens, écran ou papier, les artistes continuent d'exprimer leurs sentiments et de nous les partager. Pour l'artiste, la technologie est une autre manière d'exprimer ses sentiments. La technologie n'est qu'une nouvelle entrée dans un livre infini.
Merci Nicolas. Le salon de l'éducation, c'est aussi répondre à toutes les questions des élèves et des étudiants. Les conseillers d'orientation sont présents pour y répondre. Eugénie et Ariane ont glané des informations sur le sujet. Ariane, qu'avez-vous découvert sur le stand des conseillers d'orientation ?
Le stand des conseillers d'orientation ne les emplit pas depuis hier matin. Tous les conseillers d'orientation enchaînent les entretiens avec des étudiants, des jeunes élèves qui veulent en savoir un peu plus sur leur avenir. Nous avons comme invité Martine Van Lamvinck, directrice du SIO Mediacom. Elle est présente sur le salon et a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Martine Van Lamvinck.
Bonjour.
Pouvez-vous nous rappeler brièvement le rôle des centres d'information et d'orientation et du CIO Mediacom?
Alors, le CIO Mediacom est un CIO un peu particulier parce que nous avons une mission de répondre aux journalistes. Hein. Mais par contre, c'est un CIO comme les autres. Alors, les CIO, ils ont un travail dans les établissements. Ce sont des conseillers d'orientation psychologues qui travaillent dans les CIO et qui sont là pour accompagner, aider, informer les jeunes et les parents sur les formations, sur les métiers, et faire en sorte que les choix d'orientation soient les meilleurs.
En quoi les technologies de l'information et de la communication ont-ils changé le domaine de la formation et de l'orientation ?
Alors, les technologies ont changé les choses, elles continuent à le faire. Alors, un exemple précis des gros changements au niveau de l'information, en tout cas pour l'orientation, c'est la mise en place par l'ONICEP d'un service qui s'appelle Mon Orientation en ligne et qui permet aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, aux parents et même aux équipes éducatives de trouver des réponses à leurs questions sur l'orientation par le mail, par le chat, par le téléphone. Et donc un service très rigoureux, très complet, personnalisé dans les réponses. Donc voilà un exemple par ce site Mon Orientation en ligne de l'impact des nouvelles technologies dans l'orientation. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est important. Hein. Mais alors je dirais que si les technologies de l'information impactent, cependant, même si nous faisons beaucoup de réponses à distance, l'entretien en présentiel reste souhaité par les familles et les jeunes, et on le voit dans ce salon, hein, le monde qu'il y a pour attendre un rendez-vous en direct avec un conseiller montre l'importance aussi quand même encore de ce rapport direct humain.
Est-ce que le numérique peut remplacer le travail d'un conseiller d'orientation?
Bon, j'ai commencé un petit peu à répondre. Hein. Alors, le numérique, bon, voilà, il remplace de façon très efficace au niveau de l'information, au niveau de conseils donnés pour des démarches, hein, également pour rendre autonome un jeune en lui expliquant comment le site de l'ONICEP est un site extrêmement riche, où on peut trouver énormément d'informations. Hein, ou le site, par exemple, admission post-bac, où les élèves de terminale font leurs demandes, il y a toute une partie information où chacun peut, de chez lui, tranquillement, ou du lycée, aller trouver des informations et des réponses, des détails sur les contenus des formations, etc. Donc c'est très rapide, c'est très efficace, et ça permet vraiment de gagner du temps ensuite pour un travail plus personnel sur la construction de son choix. Et ça le numérique, bon, ne m'aide pas forcément quand il s'agit de soi et parler de soi et de trouver le bon choix pour soi-même.
Pardon, permettez-moi d'intervenir. Comme vous le dites, l'Internet, par exemple, offre beaucoup d'informations aux élèves qui veulent s'orienter, mais vous ne pensez pas que cette multitude d'informations n'est pas un obstacle aux élèves qui ne savent pas quoi choisir à la fin?
Bien sûr, c'est sûr, on le voit aussi dans un salon. Hein. Nous, sur les stands d'accueil des conseillers, on voit arriver des jeunes qui ont ramassé une documentation énorme et ils nous mettent un petit peu ça, tout ça sur la table en disant, ben voilà, j'ai pris tout ça, maintenant je ne sais plus où j'en suis, aidez-moi à faire mes choix, aidez-moi à comprendre ce qui va être bien pour moi. Alors, l'intérêt de ce site dont je parlais, de Mon Orientation en ligne et de l'ONICEP, c'est que l'information est validée, actualisée et rigoureuse et on est sûr d'avoir une information objective. Hein. Ce qui n'est pas toujours le cas sur un certain nombre de sites, bien sûr. Donc, il faut aussi que l'accompagnement des conseillers, mais aussi par les équipes éducatives, ce soit de voir quels sont les sites sur lesquels je peux vraiment m'appuyer, qui sont vraiment valides, hein, et respectueux, et quels sont les autres où je risque d'avoir des informations erronées. Hein, voilà, bien sûr.
Je voulais vous poser une dernière question. Combien de conseillers d'orientation exercent en France?
Ah, la question piège. Je crois qu'on est bien 4000, mais j'ai peut-être, non, ça peut être autour de ça, il me semble. Hein. Donc en tout cas, il en faudrait, alors tout ce que je peux dire, c'est que ce chiffre qui ne va pas baisser, en même temps il en faudrait davantage, parce qu'on sait bien qu'un conseiller qui fait une journée dans un lycée pour 1000 élèves, c'est un petit peu compliqué parfois de réussir à avoir un entretien. Même si le rôle du professeur principal aujourd'hui, c'est aussi d'accompagner dans l'orientation, le conseiller d'orientation psychologue reste quand même le spécialiste, ou en tout cas la personne référente pour l'orientation.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci aussi.
Le salon de l'éducation, c'est aussi l'occasion de démonter des préjugés comme ceux qui ont cours avec les classes prépa. Alors, Constantin, qu'as-tu découvert?
On nous a toujours dit que les classes prépa, c'est 18 de moyenne et une mention très bien en bac. Mais est-ce si sûr? Un professeur de classe prépa du lycée La Bruyère de Versailles nous prouve le contraire. Nous l'écoutons.
Alors, un étudiant qui a ce prépa littéraire, c'est un étudiant qui a un assez bon niveau au lycée, mais en réalité, ce niveau, il n'émet donc pas uniquement à partir des notes ou à partir des moyennes, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt un profil intellectuel, une curiosité, un dynamisme, la recherche de certaines qualités qui font que l'étudiant est senti vraiment dans 2 ou 3 ans. fonctionnement modifié par les nouvelles technologies, à la fois parce que ça permet une communication plus souple avec les étudiants et parce que ça nous permet aussi de nous appuyer sur des supports qui sont différents, sur des PowerPoint, sur un certain nombre d'enseignements des langues qui rendent les choses plus fluides, même si le centre d'enseignement en réalité reste le même. Ce sont les procédures qui se déplacent, mais ce que nous construisons, c'est toujours centré autour des mêmes valeurs et autour des mêmes référents.
Est-ce que le niveau est le même dans toutes les classes prépa littéraires de France?
Alors, avec ce niveau, elle est très compliquée à évaluer. Le niveau des équipes pédagogiques est le même dans toutes les classes littéraires de France, puisque nous sommes tous à peu près passés par la même formation, l'université, une école normale supérieure éventuellement, une agrégation, ça c'est sûr, dans beaucoup de cas, un doctorat, et nous travaillons sur le même programme. Nous enseignons la même chose. La différence de résultats au concours des étudiants qui explique les classements qui sont produits par les journaux notamment, ça s'explique du coup en grande partie par le niveau de recrutement à l'entrée de ces classes préparatoires. Cela dit, la question est aussi celle de l'adaptation de l'étudiant à la prépa dans laquelle il va. C'est-à-dire que certains étudiants vont beaucoup mieux réussir dans une prépa qui a globalement de moins bons résultats qu'une autre prépa. Donc, chaque année, on a comme ça des exemples d'étudiants qui échouent en étant dans une prépa très prestigieuse, mais qui ensuite peuvent se retrouver dans une prépa moins bien classée, mais qui vont dans cette prépa moins bien classée réussir un concours qu'ils ont raté l'année précédente dans la bonne prépa, tout simplement parce qu'ils sont plus à l'aise, ils se sentent mieux dans cette prépa-là. Donc, question du niveau, elle est très relative. En réalité, il faut se trouver une prépa dans laquelle on se sent bien pour pouvoir aller le plus loin possible dans ce qu'on veut faire.
On dit très souvent que les classes prépa comme Henri IV ou Louis Le Grand ont un niveau de compétition qui est très fort, très élevé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la compétition entre élèves est vraiment là?
La compétition est nettement moins aujourd'hui une valeur des classes préparatoires que ça pouvait l'être auparavant. Le niveau général des étudiants à l'entrée dans ces classes préparatoires est très élevé, qui peut induire éventuellement, dans certains cas, avoir des compétitions avec les autres. Alors, cela dit, même dans ces prépas-là, région noire, où on voit des étudiants déchets certains livres pour éviter que les autres les lisent, c'est vraiment dépassé, si tant est que ça n'a jamais existé. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des ambiances de classe, des ambiances de lycée qui sont différentes d'un établissement à l'autre, tout simplement parce que c'est du humain, hein. Ces profs sont des êtres humains, les étudiants sont des êtres humains. Donc, il y a un conseil à donner par rapport à ça, c'est d'essayer de rencontrer des gens qui sont dans ces lycées ou dans ces classes, pour discuter avec eux, prendre un peu le pouls du fonctionnement de la classe ou du lycée et voir si on s'y sentira bien ou pas, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence.
Nous sommes toujours en direct du Salon de l'éducation Porte de Versailles. Le salon, c'est bien pour ceux qui peuvent en profiter, notamment les Parisiens. Mais quand on est élève à l'étranger, l'orientation est une réalité grâce au TIS. Nous écoutons Alice Botton, professeure référente d'information et d'orientation, et Vert Lénino, proviseure adjointe, toutes les deux en charge de l'orientation au lycée franco-hellénique d'Athènes.
En ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, pensez-vous qu'elles facilitent l'orientation des élèves des établissements français à l'étranger?
C'est un outil très important parce qu'il met à portée de tous les élèves et des professeurs beaucoup d'informations, surtout sur le site de l'ONICEP, mais il ne remplace pas les informations qu'un élève ou un candidat peut avoir directement en passant par le service des centres d'information d'orientation et la communication directe avec les conseillers d'orientation psychologues. Malheureusement, il n'y a pas tout sur la toile, donc les tests d'orientation ne sont pas suffisamment bons pour remplacer les tests que peut faire un conseiller d'orientation psychologue. Et on se trouve souvent devant la difficulté de trouver même des informations précises. Ça donne des idées, ça donne beaucoup d'informations, à tout malheureusement.
En quoi les TIS ont-ils bouleversé l'orientation des élèves selon vous?
Alors les TIS font partie intégrante du projet d'orientation de l'établissement. Il existe des outils informatiques, il existe des logiciels d'aide à l'orientation et des ressources en ligne sont importants. Le post-bac s'organise également depuis plusieurs années sur une application internet. Il est donc également important d'accompagner les élèves dans l'utilisation des TIS pour l'orientation.
Les TIS facilitent-ils la communication au sein de l'établissement?
Alors la communication est effective favorisé. Par contre, quelquefois, du coup, on est un petit peu submergé par les TIS. Pour vous donner un exemple, je reçois chaque jour 120 mails sur lesquels il faut répondre. Ça prend du temps. Donc, effectivement, là, les TIS peut aussi donner du travail en plus.
Comment la communauté scolaire réagit-elle face aux
au sein de la classe, mais aussi en dehors. C'est quelque chose d'extrêmement important qu'il est à développer et que nous devons accompagner.
Nous avons aussi demandé l'avis des élèves de notre lycée sur l'importance des TIS dans l'orientation. On écoute Coralie, élève de terminale.
Et est-ce que vous pensez que les TIS vous ont aidé pour votre orientation?
Oui, d'une certaine manière, ça a pu m'aider, étant donné que je fais beaucoup de recherches sur Internet et que je ne me suis pas renseignée sur des livres ou même aussi des livres. Tout se fait maintenant par Internet et toutes nos recherches, tout se passe par Internet, selon moi, et donc par les technologies.
Et vous pensez que, par exemple, être toujours face aux technologies, ça peut quand même nous faire perdre le contact, peut-être, qu'on a avec un prof d'orientation? Donc, on n'a plus le même contact humain qu'on avait peut-être avec un prof d'orientation, non?
Après, c'est une question d'utilisation. On peut très bien se renseigner avec un ordinateur, avoir des réponses à nos questions, mais d'une certaine manière, trouver des contacts par le biais, justement, de cet instrument, et ensuite se mettre en relation avec cette personne en temps réel, comme sortir et rencontrer cette personne. Il faudra faire la part des choses entre être constamment sur une nouvelle technologie et être aussi dans une vie réelle et connectée dans le monde.
Aurélien, que penses-tu de l'orientation et des TIS à l'école?
Personnellement, en ce qui concerne l'orientation, je n'ai pas de problème particulier. J'avoue que l'absence d'une conseillère d'orientation psychologue dans l'école est un point négatif. Voilà, on a seulement notre prio qui s'occupe seulement des questions d'orientation et n'est pas là pour orienter réellement les élèves. C'est dommage. Mais comme on a vu, et comme les élèves et les professeurs aussi ont dit, les TIS sont là pour remplacer ce conseiller psychologue. Ils sont là pour nous informer sur les différentes filières et les voies professionnelles qu'on peut suivre. Et donc, je pense que voilà, les TIS font vraiment de l'orientation une réalité à l'étranger.
Et on peut dire aussi qu'on pourrait demander une meilleure informatisation des salles de classe. Je pense que ça serait bien pour nous aider à communiquer avec l'étranger. Voilà.
Bien sûr, tu as parfaitement raison.
Cette émission est enregistrée sur le stand de l'AEFE. L'AEFE est, comme vous le savez sans doute, l'agence de l'enseignement français à l'étranger. Vous le saviez vraiment? Visiblement, tout le monde n'est pas aussi bien informé que vous. La preuve, écoutez ces quelques réponses recueillies hier dans le salon.
Non.
Pas du tout. L'agence d'études françaises d'économie.
Voyez maintenant ce qu'a répondu la directrice de l'AEFE, Hélène Farnaud-Defromont, après avoir écouté ce micro-trottoir.
Alors, j'ai pas tout entendu, hein, très, 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 très correctement, mais ça montre, me semble-t-il, une chose, c'est qu'effectivement, notre image de marque reste à installer dans le paysage éducatif, alors français, et au-delà, international sans doute, mais là vous avez surtout interrogé, je pense, des Français qui étaient sur le salon, le salon Porte de Versailles. Et je pense d'ailleurs que pour bien asseoir notre image de marque, ce sont les élèves et les anciens élèves qui sont les meilleurs relais, les meilleurs ambassadeurs des lycées français de l'étranger. Ce sera d'ailleurs un des thèmes des 25 ans de l'agence.
Nous avons profité de la présence de la directrice de l'agence hier dans notre studio pour lui poser quelques questions. Nous l'écoutons.
Bonjour, Madame la directrice de l'AEFE. Nous vous remercions de nous accueillir sur le stand de l'AEFE ici, au Salon de l'éducation à Paris. Nous vous remercions aussi de nous donner cette opportunité de participer à cet événement. Nous sommes les élèves du lycée franco-hellénique d'Athènes. Et à propos de l'agence, nous avons vu sur les affiches qu'en 2015, l'AEFE fête ses 25 ans. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?
Effectivement, bonjour d'abord. Bonjour à tous les élèves de première année de la lycée franco-hellénique de la Croix. Alors effectivement, en 2015, ce sera le 25e anniversaire de l'AEFE qui a été créé par une loi en 1990 pour fédérer l'ensemble des établissements scolaires français qui sont implantés à l'étranger. Donc ce sera un anniversaire très important. 25 ans, c'est un âge encore jeune, mais qui commence à être, je dirais, intéressant. Et ce réseau des lycées français de l'étranger, depuis 25 ans, a pris beaucoup d'importance. Il y a de plus en plus d'élèves chaque année qui sont scolarisés à l'étranger, dans une école française, dans un lycée français. Et donc, nous essaierons de voir comment ce réseau s'est développé en 25 ans, quelles sont aujourd'hui ses particularités, ses points forts, peut-être aussi des choses à améliorer, évidemment, et nous le ferons avec tous nos partenaires.
Et justement, vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre fonction en tant que directrice de l'AEFE ?
Alors, la directrice de l'AEFE dirige l'agence, mais elle ne le fait pas toute seule. En fait, les services centraux de l'AEFE, c'est 165, un peu plus de 165, 166 personnes, très exactement, à Paris et à Nantes, qui viennent de tous les horizons. Donc, il y a évidemment des professionnels de l'éducation nationale, mais nous avons aussi des professionnels des questions de finances publiques, de contrôle de gestion. Nous avons beaucoup de gens qui ont travaillé à l'étranger, qui ont eux-mêmes vécu à l'étranger, donc qui ont été... soit eux-mêmes élèves ou parents d'élèves de lycées français de l'étranger.
Même la ministre de l'Éducation, Najat Belkacem, est passée par notre stand hier. Un passage éclair, mais elle a pris le temps de répondre quand même à deux petites questions.
Est-ce que l'enseignement à l'étranger reste une priorité pour la France ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour la première fois la semaine dernière, nous nous sommes réunis, Laurent Fabius et moi-même, donc le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation, pour mettre en commun notre pilotage et notre stratégie du développement de l'enseignement français à l'étranger, parce qu'on a conscience que c'est une carte maîtresse pour la France, qu'il y a beaucoup de familles à l'étranger qui veulent inscrire leurs enfants dans les établissements français, que ce n'est pas simplement une reconnaissance de l'excellence disciplinaire de la France, mais c'est aussi une façon d'adhérer à des valeurs universelles que porte la France à l'étranger. Donc nous serons là, en effet, pour en permettre le développement.
Comment les nouvelles technologies améliorent-elles le contact entre la France et les écoles à l'étranger ?
De manière générale, les nouvelles technologies et le numérique sont des atouts pour toucher le maximum d'étudiants, le maximum de gens, avec un enseignement qui est un enseignement français, francophone. Les MOOCs, par exemple, c'est cours en ligne que nous avons développé, que nos universités ont développé depuis maintenant un an, ont un succès fabuleux.
Voilà, cette émission en direct du salon se termine. Tous les élèves de la première aile du lycée franco-hellénique d'Athènes tiennent à remercier l'AEFE qui nous a accueillis pendant ces deux jours et permis de vivre notre première expérience radio en direct. Nous remercions aussi le CLENI et son super animateur Gérard Colavecchio et toute la direction du lycée.
Nous vous souhaitons un bel après-midi et à bientôt sur les ondes de Radio Calumera.